La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes qui ont dit non à la défaite de la France face à l'Allemagne et face à l'Italie. Non à l'armistice demandé par le maréchal Pétain en juin 1940.
Je m'adresse aujourd'hui à vous, Français de la métropole et Français d'outre-mer, pour vous expliquer les motifs des deux armistices conclus, le premier avec l'Allemagne il y a 3 jours, le second avec l'Italie.
Et du jour au lendemain, tout s'écroule. Alors, je disais à mes fils, moi, quand tout s'écroule, eh bien rien n'est perdu. Il ne faut pas s'écrouler en même temps que l'écroulement. Il faut regarder les choses s'écrouler, se tenir un peu en dehors et chercher une voie.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
On savait qu'il y avait quelqu'un, mais on n'avait pas du tout entendu l'appel du 18 juin. Et c'est donc de pure initiative personnelle qu'on a décidé de partir.
Dans toutes les provinces françaises, ils sont des centaines à refuser la défaite et à quitter leur foyer pour rallier un général appelé De Gaulle en Angleterre. Ils ne se connaissent pas encore. Ils sont maçons, fils de militaires, paysans, secrétaires, prêtres, marins, instituteurs. Ils sont souvent très jeunes, souvent patriotes. Des destins singuliers racontés dans l'exposition 1940, paroles de rebelles, à découvrir à partir du 17 septembre au musée de l'Ordre de la Libération à Paris et en avant-première dans la Marche du Monde sur RFI. Et pour nous guider dans le parcours aventureux des Françaises et des Français qui ont tenté de rejoindre les côtes anglaises afin de résister et de poursuivre la guerre aux côtés d'un jeune général quasiment inconnu, j'ai le plaisir de recevoir Diane de Vignemont, chercheuse en histoire contemporaine. Bonjour Diane.
Bonjour.
Et Vladimir Trouplin, conservateur du Musée de l'Ordre de la Libération. Bonjour Vladimir.
Bonjour.
Alors Diane de Vignemont et Vladimir Trouplin, vous êtes deux des trois commissaires de l'exposition 1940, Paroles de rebelles. Le troisième se nomme Lionel Dardenne et c'est l'un des événements de cette année de Gaulle en France. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il est évident d'évoquer le général de Gaulle comme la figure du rebelle en chef, puisque suite à l'armistice obtenu par le maréchal Pétain, de Gaulle décide d'incarner la France combattante depuis Londres, où il s'est exilé. Sauf que Pétain, lui, est adulé par les Français, tandis que de Gaulle est à l'époque très peu identifié. D'ailleurs, on ne connaît pas encore son visage. Et très peu de gens ont entendu son appel du 18 juin à la radio. Du coup, on se demande ce qui a pu motiver ces rebelles de la première heure. Et ce sera ma toute première question. Comment avez-vous choisi, Vladimir Trouplin, de penser cette question de l'engagement au sein du Musée de l'Ordre de la Libération?
Alors d'abord parce que le Musée de l'Ordre de la Libération est consacré à des gens particuliers qu'on appelle les compagnons de la Libération, qui ont reçu, par décision du général de Gaulle, la Croix de la Libération. C'est 1000 personnes, 1038 hommes et femmes, très peu. Et ce qui les caractérise, et on s'en est aperçu en travaillant sur ce sujet de l'engagement en 1940, c'est que 80% d'entre eux sont des résistants de l'année 1940. Et ça nous a paru donc être un corpus extrêmement riche et intéressant et varié pour réfléchir sur cette question de l'engagement en 1940. Pourquoi on s'engage? Dans quelles conditions? Quel est le déclic de l'engagement? Y a-t-il un déclic? Et quelles sont aussi les motivations, ce qu'on pourrait appeler le mystère de l'engagement?
Une question, voilà, effectivement, très mystérieuse. On a noté tout de suite qu'ils ne sont qu'environ 1000, hein, 1038 exactement, compagnons de la Libération. Et vous précisez dans cette exposition que déjà 790 d'entre eux s'engagent, hein, dès l'année 1940. Alors, vous avez voulu les connaître, ces compagnons de la Libération. Vous avez voulu les comprendre. Et vous avez, Diane de Vignemont, recherché leurs écrits, leurs objets, mais aussi leurs témoignages. Alors pourquoi finalement vous vous êtes centré sur leurs paroles?
Oui, à l'origine on savait qu'on voulait effectivement par présenter dans cette exposition et des objets et des témoignages écrits et des témoignages audiovisuels. On a décidé de se les départager. L'un d'entre nous allait être en charge de rechercher des objets, un autre en charge de lire les mémoires et les manuscrits. Et moi, étant à l'étranger, je serai en charge de retrouver les témoignages audiovisuels.
Vous étiez en Angleterre lorsque
j'étais
vous commencez
en Angleterre,
votre recherche.
Il y a un an et demi. Et finalement, on en a trouvé tellement qui était inédit, qui n'avait jamais été au centre d'aucune exposition sur ce sujet, qui était tellement émouvant, qui parlait de tellement de différents tenants et aboutissants de l'engagement, qu'on a décidé de faire cette exposition sur les paroles de rebelles.
Est-ce que cela veut dire, Diane de Vignemont, que dans le travail historique sur les compagnons de la libération, finalement l'enregistrement de leurs témoignages est venu un peu plus tard ?
Alors oui, c'est assez tardif en général, même dans l'historiographie de la résistance. C'est quelque chose qui arrivait assez tardivement, le fait de faire de l'histoire orale. Ça commence sous contrôle de Vladimir dans les années 80. Et donc c'est nécessairement avec des résistantes, des Français libres et des Françaises libres plus âgées. Mais c'est vraiment des sources qui ont été assez peu exploitées dans les expositions jusqu'ici.
Et ça tombe bien, on adore ça à la radio, évidemment, les archives sonores. Comment, pourquoi, à quel moment de leur vie, au nom de quelles valeurs, une poignée d'hommes et de femmes décident de prendre tous les risques pour une France libre ? Là est la question. 1940, Parole de rebelle, c'est une exposition du Musée de l'Ordre de la Libération à découvrir dès le 17 septembre et en avant-première sur RFI. Pierre Messmer.
Moi j'ai eu l'impression surtout que les Français avaient reçu un coup de matraque terrible sur la tête et qu'ils étaient en quelque sorte complètement neutralisés. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, de prendre quelques décisions que ce soit. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le fait qu'ils se soient, à l'époque, ralliés sans aucune difficulté et en énorme majorité au maréchal Pétain.
Daniel Cordier.
Les discours de Pétain, ben, c'est le commencement de ma vie. Je me souviendrai toujours. Paul Reynaud est parti et le maréchal Pétain est au pouvoir et il va parler à midi et demi. Je suis allé chercher ma mère et nous étions tous les trois devant le grand poste de radio que nous avions.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Bon, les premiers mots du discours célèbre de Pétain, ça n'intéresse pas et tout. Et tout d'un coup, au milieu...
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à réfléchir avec moi.
Dès le dernier mot de son discours, je revois ma mère qui s'est affaissée entre les bras de mon père et je suis monté 4 à 4 dans ma chambre. Je me suis jeté sur mon lit et en sanglots. Un sanglot. Et alors, quand j'ai repris mes esprits, j'ai dit non, mais c'est un vieux con, c'est pas possible. La France ne peut pas être battue. Et puis alors, je suis allé me promener un petit peu dans Pau, qui est tout petit, sur la place et tout ça. Les gens étaient au café, les cafés étaient pleins. Les gens parlaient. C'était le plus grand drame que la France avait vécu. Il ne se passait rien. La France était en train de mourir et à Pau, il ne se passait rien.
L'indignation de Daniel Cordier dans une version remixée de La Marche du Monde. Merci Sophie Janin. Et juste avant, la parole de Pierre Messmer, un extrait de l'expo « Paroles de rebelles ». Daniel Cordier et Pierre Messmer, tous les deux reviennent sur le rôle de l'annonce de l'armistice par Pétain dans leur engagement. Alors, il faut revenir, Vladimir Troupelin, sur ce contexte souligné par Pierre Messmer, qui en 1940 a 24 ans. Il a fait son service au 12e régiment de tirailleurs sénégalais et il est toujours dans l'armée quand les troupes nazies entrent dans Paris le 14 juin. Et c'est bien pour lui ce message radio de Pétain du 17 juin 40 qui déclenche sa décision.
Oui, et il n'est pas le seul et loin de là. Vous avez dit tout à l'heure que peu de gens ont entendu l'appel du 18 juin. C'est tout à fait vrai.
Celui de De Gaulle.
L'appel de De Gaulle, oui, le 18 juin. Mais En revanche, y compris parmi ceux qui vont s'engager, très peu l'ont également entendu. Et c'est finalement une découverte pour nous, une confirmation, c'est que les premiers résistants qui vont partir en Angleterre, la grande majorité d'entre eux ne sait même pas que De Gaulle existe. Quel est le déclencheur de tout ça? Ce fameux coup de matraque dont parle Pierre Messmer, c'est un peu aussi l'écroulement dont parle Charles Rudrow, qu'on a entendu en tout début d'émission, c'est le contexte d'un chaos total. C'est une France en plein chaos, politique, militaire. Les corps constitués n'existent plus, il n'y a plus de relais entre la population, il n'y a plus de direction, et chacun se retrouve perdu. Et Joseph Kessel a eu une très belle image en disant, en 1940, la France a été éblouie par son malheur. C'est une très belle image, elle est très juste. Et bien justement, ces rebelles de 40 font partie de l'infime minorité qui n'a pas été éblouie par le malheur de la France.
C'est très important de se remettre dans le contexte de l'époque. Alors quant à Daniel Cordier, aujourd'hui centenaire, il a tout juste 20 ans et il embarque le 21 juin 1940 à Bayonne avec 16 autres personnes, Diane de Vignemont. Et lui aussi s'engage dans les forces françaises libres. Et on a bien entendu son courroux quand il entend ce discours de Pétain, Diane.
Tout à fait. Daniel Cordier, comme l'a dit Vladimir, comme une immense majorité des compagnons, s'engage suite à ce choc de la défaite et à ce choc qu'est l'annonce de l'armistice par le maréchal Pétain.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Daniel Cordier?
Chez Daniel Cordier qui a 20 ans en 1940 et qui écoute ce discours avec ses parents dans la maison familiale pour finir par se jeter en larmes, accablé par son malheur sur son lit, et qui finalement de ce malheur, de cette défaite, de ce choc, fait un engagement sur la durée de la guerre. C'est quelque chose d'assez commun chez nos compagnons finalement, et quelque chose d'assez touchant dans leur engagement, c'est qu'ils font de leur malheur qui accable la majorité de la France, de ce malheur ils font un engagement.
Évidemment, Daniel Cordier à l'époque n'a aucune idée que deux ans plus tard, en 1942, il sera parachuté en zone libre et deviendra secrétaire de Jean Moulin, chargé par le général de Gaulle d'unifier la résistance intérieure. C'est-à-dire que on est bien à un instant T, il ne faut pas faire d'anachronisme, Vladimir Troupelin. On est vraiment dans ce moment du déclenchement de l'engagement.
On est dans ce moment du déclenchement, et ce que nous avons finalement observé avec Diane de Vignemont et avec Lionel Dardenne, et c'est d'ailleurs le titre de la première partie de l'exposition, c'est qu'il y a une expression commune dans le discours du 17 juin du maréchal Pétain et du 18 juin du général de Gaulle. Une seule, qui est cesser le combat. Tout est là. Ces rebelles refusent absolument de cesser le combat, comme De Gaulle le dit également, mais eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, encore une fois, ne l'ont pas entendu. C'est ça qui déclenche leur réaction viscérale, qui s'explique ensuite, et c'est ce qu'on essaie de dire dans l'exposition, par d'autres motivations.
Alors on comprend déjà combien ces futurs compagnons de la libération sont jeunes et sont révoltés par la résignation du maréchal Pétain, qui est adulé par les Français à l'époque, qui est le héros de la Première Guerre mondiale, le héros de la bataille de Verdun. Mais on peut se demander aussi s'ils n'ont pas un goût prononcé pour l'aventure. Christian Pinault.
On entre dans la résistance, mais c'est facile de dire j'entre dans la résistance. Mais comment y entrer et par quels moyens? Nous n'avions pas entendu pour la plupart l'allocution du général de Gaulle. Nous ne la connaissions pas, nous l'avons connue seulement en septembre, pratiquement. Par conséquent, c'était un geste isolé. Plusieurs gestes isolés, si vous voulez, mais en tout cas isolés. Nous n'entrions pas dans un cadre bien défini. Et il a fallu un moment pour que ce cadre se définisse, et ça a été le plus gros problème. Car il ne s'agissait pas seulement d'entrer dans la résistance, il fallait faire de la résistance. Ce qui était autre chose. Et pour faire de la résistance, il fallait en avoir les moyens. Et pour en avoir les moyens, il fallait les réunir. Vous voyez tous les problèmes qui pouvaient se poser à cette époque.
Fred Moore.
Alors me voici, donc, en 40, à Brest. Mon père, bien sûr, tout à fait d'accord, dit ben, « nous allons essayer de trouver un bateau pour partir ». D'ailleurs, la dernière vision que j'ai eue de mon père et de ma mère, tous les deux se tenant par la main sur la pointe d'un rocher, nous vous voyons partir et en gueulant la Marseillaise, par exemple. Vous voyez mon père et ma mère sur le rocher, comme ça.
Oui, Fred Moore, on imagine absolument vos parents, main dans la main, hurlant la Marseillaise d'une seule voix sur leur rocher. Fred Moore, paix à son âme, décédé en 2017 à Paris, est né à Brest en 1920, donc breton.
Oui.
Donc on a envie de vous demander, Vladimir Troupelin, beaucoup de Bretons dans les Compagnons de la Libération.
Alors beaucoup de Bretons dans les Compagnons de la Libération, beaucoup de Bretons dans la France libre d'une manière générale. Le Finistère est le département qui rapportait à la population, à sa population, a donné le plus de Compagnons de la Libération, plus que la région parisienne. 89 Compagnons de la Libération sont nés en Bretagne.
Bah effectivement, c'est plus facile pour prendre un bateau.
C'est indéniable.
Hein, quand on est marin, quand on est juste au bord
et
de la mer.
Et on n'a pas peur de la mer en plus quand on,
exactement,
est marin.
En tout cas, la traversée en bateau est souvent la première grande aventure pour les Compagnons. Fred Moore a même acheté un langoustier avec son frère pour traverser. Diane, mais est-ce qu'ils sont tous arrivés à bon port, c'est-à-dire à Londres, vous qui avez écouté énormément de témoignages? C'est une chose que de décider de partir et d'essayer de traverser la mer en bateau, mais c'en est une autre que d'arriver à bon port.
Tout à fait, ils sont nombreux à essayer ou en tout cas à envisager le projet et à ne pas y arriver. Il y en a qui tentent de partir en avion, il y en a qui tentent de partir en bateau, qui finalement se retrouvent déroutés, qui décident de rester en France et de rejoindre ce qui deviendra la Résistance ou alors de rejoindre l'Empire pour essayer de tenter de rallier les territoires à la France libre. Et même pour ceux qui arrivent à prendre un bateau pour aller à Londres, il y a toujours le danger des torpilleurs nazis dans la Manche. Non, c'est loin d'être une aventure facile.
Alors en ce qui concerne Fred Moore, il deviendra un grand combattant des forces françaises libres, affecté à la garde d'honneur du général de Gaulle en 1943. Et il fera le débarquement de Normandie le 2 août 1944. Quant à Christian Pinault, il est fils d'officier, syndicaliste, CGT. Et dès décembre 1940, il conçoit un journal clandestin qu'il nomme Libération. Dans une France complètement chaotique, Vladimir Troupelin, il faut quand même rappeler dans quelles conditions justement Christian Pinault s'engage. Faire de la presse clandestine à l'époque, c'est super dangereux.
Oui, bien sûr, c'est super dangereux. Et ce que dit Christian Pinault dans l'extrait qu'on a entendu, c'est tout à fait révélateur. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui partent en Angleterre, les choses sont un peu différentes parce qu'ils se trouvent assez vite encadrés. Encadrés comme des militaires. Ceux qui sont en France et qui veulent faire quelque chose, parce que finalement, on veut faire quelque chose. Mais quoi faire? Comment le faire? Avec qui le faire? Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de formation du résistant. Et c'est donc par la sociabilité naturelle que les choses se font. Christian Pinault, vous l'avez dit, est un syndicaliste. Eh bien, il va se tourner d'abord vers ses camarades syndicalistes pour essayer de jauger leur opinion, à la fois de ce qu'est le gouvernement de Vichy à leurs yeux, et puis, est-ce qu'on peut tolérer comme ça en zone nord, puisque Christian Pinault est en zone occupée, la présence des Allemands?
Alors, il faut bien expliquer à nos auditeurs que la France est donc partagée en deux zones, nord et sud. Et il y a donc la zone nord qui est occupée puisque les nazis sont entrés à Paris dès le 14 juin 1940. Et puis il y a donc cette zone sud où est installé le gouvernement du maréchal Pétain, dite zone libre.
Absolument. Et on pourrait même aller plus loin parce qu'une partie de la France n'est même plus la France. C'est-à-dire la zone annexée, Alsace-Moselle, est rattachée au Grand Reich. Et le nord de la France, le Nord-Pas-de-Calais, est rattaché à la Belgique. La France est morcelée avec des situations très différentes selon les lieux où l'on se trouve.
Sans oublier bien sûr l'Empire, avec l'Afrique équatoriale française, avec la voix de Félix Eboué, gouverneur. Diane de Vignemont.
Félix Eboué qui est donc gouverneur du Tchad, et grâce à son ralliement, le général de Gaulle va véritablement avoir sa première assise territoriale en Afrique, le premier territoire rallié à la France libre. Donc c'est une figure centrale de la France libre et un compagnon central.
Vladimir.
On peut ajouter que Félix Eboué était le premier compagnon de la Libération, avec quatre autres personnes, le 29 janvier 1941, et que dans l'exposition, nous présentons un document qu'on trouve assez émouvant. C'est le texte de la proclamation du ralliement du Tchad le 26 août 1940, qu'il envoie à sa fille, Ginette, avec un petit mot manuscrit, en lui disant « Je crois que ça a eu un certain effet ».
Mais pour revenir à Christian Pinault, il pose effectivement la problématique de l'époque. Vous l'avez dit, Vladimir Troupelin, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a eu quand même 90 000 tués sur les premiers 40 jours de guerre, cette fameuse drôle de guerre. Et il y a eu 1 850 000 prisonniers français, bientôt en route vers le Reich. Donc ils sont jeunes, ils sont fougueux, mais enfin ils prennent des risques très importants.
Ils prennent des risques très importants, ils ont le sentiment quand même qu'ils sont très minoritaires, ils se rendent bien compte de l'abattement des Français, la fameuse France éblouie. Donc les ressorts ne sont pas évidents. Et Christian Pinault, il va commencer par publier le manifeste du syndicalisme, avant même de commencer à rédiger le journal qui va devenir Libération, du mouvement Libération. Et donc c'est une profession de foi. Et on trouve ça un peu dans tous les domaines, des instituteurs, des enseignants, des juristes, des avocats, essayent par des liens professionnels de regrouper des gens qui pensent la même chose pour essayer de faire quelque chose. Mais on est très loin en 1940 de ce qu'on appelle la résistance organisée, c'est-à-dire des véritables mouvements, des véritables réseaux. Je ne vous parle pas des maquis qui n'existeront pas avant fin 1942.
D'ailleurs, se considèrent-ils eux-mêmes en 1940 comme des résistants? Est-ce que ce mot existe?
Ce mot n'existe pas. Ce mot n'existe pas vraiment, me semble-t-il, à l'époque. L'occurrence la plus connue, c'est celle du discours du général de Gaulle, qui termine son discours par « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Mais le terme de résistance s'applique pas forcément individuellement et entre eux à ces gens qui agissent.
Alors il faut donc beaucoup d'énergie, de conviction pour entrer en résistance sans le savoir, j'allais le dire. En avant-première de l'exposition Paroles de rebelles, on s'interroge sur les sources de l'engagement des Compagnons de la Libération. Jacques Rumger.
C'était une blessure d'amour propre, ça m'a cinglé ça, de m'être fait battre et c'était la nation allemande telle qu'elle était. Et moi, mon pays, en pleine débandade, complètement effiloché. Et ça m'a vraiment cinglé. Il y a eu une réaction viscérale, mais je dirais de citoyen. Pas de patriote, de citoyen. De citoyen d'un pays qui s'appelle la France, avec sa culture, avec tout ce que ça peut représenter.
Henri Roll-Tanguy.
Pour les anciens des brigades, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le combat qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient engagé en Espagne, était un combat qui n'était pas terminé. Pour nous, le conflit espagnol se terminait malheureusement contre les intérêts de la paix, mais pour nous, il n'y avait qu'un seul ennemi qui restait, c'était Hitler et Mussolini. Et nous n'avons jamais dérogé de cette idée. C'est ce qui fait que nous nous sommes engagés dans la résistance d'une façon toute naturelle. On reprenait notre place au combat.
François Jacob.
Moi, j'étais d'une famille. J'avais un grand-père général qui avait été général de corps d'armée, qui était mort depuis quelques années. Et tous mes pères, oncles, etc., avaient fait la guerre de 14. Il y avait une espèce de tradition militaire dans la famille. Ça, c'était une chose. Et puis d'autre part, ça paraissait impensable de vivre avec les Allemands, enfin avec les nazis.
René de Norrois.
Des gens qui s'acharnaient à me démontrer que, quand même, enfin Pétain, c'était quelque chose. Il représentait les grands maréchaux de la France de la guerre de 14. Toutes les raisons qu'on pouvait apporter, m'en fous. Foutez-moi la paix. L'essentiel est ailleurs. Parce que l'essentiel, c'est Hitler. C'est le nazisme.
Je suis très frappée à l'écoute de ces témoignages que vous nous proposez dans l'exposition Paroles de rebelles, Vladimir Trouplin, vous qui êtes conservateur du musée de l'Ordre de la Libération, de la fraîcheur du ton employé, de l'émotion. Foutez-moi la paix, dit René Noroy, il revit l'époque. C'est très très fort.
Oui, en fait, on a le sentiment qu'ils ont 20 ans, 20 ou 25 ans selon les cas. Il y a une fraîcheur, je pense que l'essentiel de leur vie, il a été dans ce combat, quand même, pour la plupart d'entre eux. Vous savez, Pierre Messmer, qu'on a entendu au début, qui a été ministre des Armées pendant 9 ans, Premier ministre, académicien. Sur sa tombe, il y a marqué Pierre Messmer, 1916-2007, compagnon de la Libération. Rien d'autre. Et c'est un peu le même principe. Je pense qu'en revivant ça, ils revivent un peu l'essentiel de ce qu'a été leur vie, pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire cet engagement tout à fait à contre-courant, tout à fait impensable. Et puis c'est intéressant, on entend là quand même un prêtre, un communiste, Roll-Tanguy, René de Noroy qui est prêtre du diocèse de Toulouse, progressiste mais quand même très anticommuniste. Voilà, ce sont des gens qui se sont retrouvés dans un combat commun, alors même qu'ils ne partageaient pas un certain nombre de valeurs.
Absolument, on va revenir justement sur chacun. Alors, Jacques Rumger, lui, il ne veut pas se définir réellement comme un patriote. Il parle d'une réaction citoyenne. Ça, c'est une des motivations aussi.
Alors ça, c'est très intéressant. Il est un peu le seul à être d'ailleurs utilisé dans les témoignages. Ouais. Hein. Je parle sous le contrôle de Diane, qui les connaît encore mieux que moi.
Diane, est-ce que cette expression « j'étais un citoyen avant tout », elle est revenue souvent?
C'est tout à fait unique chez ce compagnon-là. En général, c'est la France ou la patrie ou la nation. La réaction citoyenne, c'est vraiment Rumger.
Donc c'est plus le patriotisme qui revient quand même dans les témoignages.
Oui.
D'accord. Alors lui, ensuite, il s'est battu dans l'artillerie, dans l'Empire, en Afrique équatoriale française. Mais il y a également, évidemment, cet engagement politique hein, de Henri Rol-Tanguy, qui rappelle qu'avant de se battre contre les nazis, il s'est battu contre les franquistes. En Espagne, Diane de Vignemont.
Henri Rol-Tanguy conçoit son engagement comme une continuité qui commence en 1936. Il se démène pour réussir à s'engager en Espagne. Il a du mal à être détaché. Il finit par y arriver. Et ensuite arrivent les accords de Munich. Ensuite arrive l'armistice, la capitulation de la France, les débuts de la collaboration. Et lui vit véritablement son combat de résistant comme une continuation de ce combat antifasciste qui devient un combat anti-nazi.
C'est très intéressant parce que là aussi, ça nous redonne une perspective de l'époque. Hein, je veux dire, Hitler donc élu en 1933 en Allemagne, Franco lui également au pouvoir, Mussolini en Italie. Donc on est dans une Europe des totalitarismes et pour les brigades internationales qui sont des gens qui viennent de partout, hein, qui ont des profils très différents. Hein, là je fais le parallèle avec les profils également très différents des Compagnons de la Libération. Il y a ce combat politique contre les totalitarismes, et donc une sorte d'enchaînement Vladimir Trouplin, on s'est battu en Espagne contre Franco, très naturellement on va se battre contre l'occupation de la France par les nazis.
Oui, oui, c'est vrai pour certains, on pourrait parler de Bertie Albrecht, elle est mise en avant dans l'exposition, pas parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a voilà. Vraiment un profil tout à fait passionnant sur la question de l'engagement, elle est comme Rol-Tanguy mais elle est plus âgée, donc ça date de beaucoup plus loin, dans une vie d'engagement. Hein. 1915, elle s'engage au front comme volontaire infirmière ambulancière. Elle s'engage pour la cause féminine. Elle travaille sur le planning familial, la liberté sexuelle des femmes dans les années 20. Quand Hitler arrive au pouvoir, elle héberge des Allemands anti-nazis chez elle. Après la retirada, elle accueille également des réfugiés républicains espagnols chez elle. 1940, c'est la suite. J'allais dire, c'est l'ultime engagement, puisqu'après ça, malheureusement, elle y laisse sa vie. Mais pour beaucoup, ça n'est pas ça. Pour beaucoup, c'est une rupture. Une rupture avec l'ordre établi, très difficile. Je parle en particulier des militaires. Et on pourrait nommer Honoré Deschendorff, qui lui est militaire de métier, qui appartient à la droite traditionnaliste, très catholique, assez proche de l'action française.
Et c'est extrêmement difficile à l'époque de ne pas obéir au héros de Verdun, au maréchal Pétain.
Absolument. Et il met un petit peu de temps à réagir et c'est le 10 juillet 1940 qu'il écrit une lettre qu'on présente dans l'exposition à son amiral expliquant pourquoi il rejoint De Gaulle.
Diane, devine-moi.
C'est ça, et tout à fait. Et dans notre exposition, à dessein, on présente côte à côte les destins, les parcours de Bertie Albrecht et d'Honoré Deschendorff, côte à côte dans l'exposition, deux vies d'engagement totalement différents, mais qui finalement les mènent tous les deux à entrer en résistance.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niveau.
Beaucoup d'autres voix à découvrir dans l'exposition Paroles de rebelles à partir du 17 septembre au Musée de l'Ordre de la Libération à Paris. Et très très peu de voix de femmes, on l'a souligné. Et pourtant, lorsqu'on se plonge dans le dictionnaire passionnant de la France libre, publié dans la collection Bouquins, à l'article « Femmes dans la France libre », on peut lire quand même que des femmes de toutes origines sociales, en majorité françaises, mais aussi vivant dans l'Empire français, ont rejoint De Gaulle à Londres, et c'est le cas de Elisabeth de Mirbel, diplomate de formation et camarade de Geoffroy de Courcelles. Tous les deux, ils ont tapé à la machine le texte du 18 juin du général de Gaulle à la BBC.
Écrivant, raturant, suivant la méthode qui a toujours été propre, entièrement rédigée de lui-même, recommençant, remettant l'ouvrage sur le chantier. Et j'avais réussi à joindre une amie personnelle, Mademoiselle de Miribel, qui était dans une des missions françaises à Londres, pour lui demander si elle pourrait elle-même ou d'autres de ses collègues nous aider à taper le discours. C'est elle qui est venue elle-même, elle ne tapait pas très bien et elle a tapé d'un doigt ce discours dans l'après-midi du 18.
Je savais très mal taper, mais je l'ai tapé avec une amie, François-Julien Durand, qui était venue avec moi de la mission Morand dans l'appartement de Laurent. C'est mon place. Le général était dans une pièce et Jean-François de Courcel nous apportait le texte manuscrit dans la pièce à côté. Il y avait deux pièces dans le studio, il n'y avait pas encore de bureau et c'est là où nous avons plus ou moins bien tapé le premier discours du général de Gaulle. Ce n'est pas une écriture facile, mais elle est très belle. Il ne me semble pas que j'ai redemandé à Courcel. Je crois que j'ai compris.
Elisabeth de Mirbel n'ose pas complètement dire que c'est pas évident de déchiffrer l'écriture manuscrite du général de Gaulle, Vladimir Troupelin.
Je peux en parler parce qu'on a environ 70 manuscrits originaux du général de Gaulle
parlez-nous
au musée, dans les collections du musée.
Bien sûr.
Et qu'il a une écriture épouvantable, indéchiffrable. il rature sans arrêt, il surcharge, il fait des renvois.
Ce qui prouve qu'il écrit lui-même ses textes.
Alors ça, c'est une certitude absolue. Voilà. Il ne laissait à personne le soin d'écrire ses textes, ses discours. Mais il faut une certaine habitude pour se plonger là-dedans. Et je pense qu'Elisabeth de Mirabel a beaucoup souffert le 17 juin matin pour arriver à déchiffrer. Je pense que ça a été difficile, mais elle ne le dit pas par pudeur.
Voilà. En tout cas, c'était une archive. Ina, c'est un exemple donc, de parcours féminin. Vous avez cité Bertie Albrecht, mais il y a quand même eu des femmes qui font partie de ces compagnons de la Libération. Est-ce que vous en connaissez le chiffre? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé.
Ah oui,
le nombre de femmes.
Oui, c'est facile. Elles sont 6. Donc, c'est une ultra minorité au sein de cet ordre, qui est un ordre très combattant et qui nous ramène aussi, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit de prendre un peu de recul, au statut réel de la femme dans les années 40.
C'est et notamment en France.
En France en particulier.
Qui est plutôt d'ailleurs assez en retard par rapport aux Anglaises ou aux Allemandes.
Absolument. Ah. La femme française est une mineure civile et une mineure civique. Et c'est aussi pour ça qu'on récompense très peu les femmes au sortir immédiat de la guerre.
Diane de Vignemont, vous êtes jeune, vous êtes de la génération de celles et ceux qui se sont engagés, justement en 1940, vous êtes dans votre 20e année, dans vos 20 ans. Est-ce que vous avez été surprise de voir qu'il y avait aussi peu de femmes à l'époque ?
Alors je le savais en commençant qu'il n'y avait effectivement que 6 femmes compagnons de la Libération, dont justement Elisabeth de Miribel ne fait pas partie parce que c'est un ordre très militaire, très combattant, et elle a beau être une des premières Françaises libres. Elle n'en fait pas partie parce qu'elle a eu un engagement très féminin, entre guillemets. Elle s'est exilée au Canada, elle a fait partie des comités de la France libre, elle a eu une œuvre caritative, très engagée, très dans le soutien des œuvres de la France libre, mais très peu militaire. Au-delà de ça, les 6 femmes compagnons de la Libération sont plusieurs à être décédées pendant la guerre, et même celles qui ont survécu à la guerre ont été très peu interrogés de fait, parce qu'on interviewait très très peu les compagnons de la Libération et les résistants dans les années d'après-guerre. L'historiographie ne s'est pas faite comme ça d'emblée. Et ensuite, parce que, et c'est très commun chez les résistantes, même au-delà des compagnons de la Libération, de minimiser cet engagement qu'elles ont pu avoir au fil de la guerre.
Et puis, j'ai envie aussi d'évoquer la voix d'une femme qui a souvent été réduite à une représentation exotique de sa personne et de sa couleur, avec plumes et bananes. C'est Joséphine Baker, lieutenant Joséphine Baker, super engagée pour espionner l'ennemi et faire du renseignement, mais aussi pour remonter le moral des troupes, Vladimir Troupelin. Parlez-nous de l'engagement de Joséphine Baker.
Joséphine Baker résiste avant 1940. Figurez-vous,
c'est-à-dire
dès 1939, dès la déclaration de guerre, elle se met au service des services de renseignement français pour faire de l'espionnage anti-allemand au profit de la France. Donc elle s'engage, si vous voulez, avant même la catastrophe de la défaite de 40. Et ensuite, elle va continuer. Entre-temps, elle va être très malade. Hein. Elle va être hospitalisée pendant de nombreux mois en Afrique du Nord. Et ensuite, elle poursuit ses activités de renseignement au profit de la France libre, cette fois-ci. Et elle va officiellement signé un engagement et elle sera, comme vous l'avez dit, lieutenant des FAFL, des Forces Aériennes de la France Libre. Et c'est le lieutenant Baker qui a reçu la médaille de la Résistance française avec rosette, c'est-à-dire le plus haut grade de cette médaille de la Résistance, qui est la seule décoration créée par le général de Gaulle avec la Croix de la Libération pendant la guerre. Voilà.
Alors, je vous propose d'écouter ce document d'archives INA, où on va entendre justement le lieutenant Baker, par ailleurs connu bien sûr pour sa chanson la plus célèbre.
Cette voix que vous entendez, vous l'avez reconnue. C'est celle de Joséphine Baker. Elle est près de moi, souriante, très simple, comme vous la connaissiez. Seulement, elle est en uniforme. Uniforme bleu marine, des filles de l'air, un mince galon d'or sur l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous portez cet uniforme?
Oh, mais vous savez, je suis engagée depuis le début de la guerre.
Parlez-nous de votre retour en France.
Le temps était gris. Il pleuvait, la mer était mauvaise. Et je suis restée longtemps rade, comme lorsque je suis arrivée pour la première fois. Mes yeux étaient encore tout ronds d'étonnement, mais cette fois, j'avais le cœur serré.
Oui, la France se réveille d'un cauchemar, mais la trouvez-vous changée?
Elle se demande si c'est vrai, si réellement elle est libre. Elle est comme une jeune fille habituée au grand air qui aurait été mise dans une maison triste et noire et qui, au lieu des douces paroles de sa mère, aurait entendu des mots brutaux d'une gouvernante qui trop souvent employé le fouet. Alors, quand elle est libre, elle reste étourdie, muette, et n'exprime rien de tout ce qu'elle a voulu dire pendant ces 4 ans de tristesse. Voilà la France que j'ai retrouvée, ou plus exactement, que nous avons retrouvée, car nous sommes nombreux à nous être donné rendez-vous à Londres ou à Alger pour la servir.
La délicatesse, la poésie et même la modestie, j'ai envie de dire, hein, de Joséphine Baker. C'est notre contribution radiophonique à votre exposition, Vladimir et Diane, donc au Musée de l'Ordre de la Libération. Et c'est intéressant d'entendre la façon dont Joséphine évoque la France retrouvée 4 ans après. Quelle place pour ces 1000 compagnons de la Libération, et c'est donc ces 6 femmes, hein, compagnons de la Libération, dans cette France un peu honteuse, un peu dépitée de ce qu'elle vient de vivre, avec ses familles totalement déchirées, les prisonniers de guerre, les morts, l'absolue horreur du génocide des Juifs, 6 millions de Juifs exterminés dans les camps nazis. Est-ce qu'il y a une place pour entendre le récit de ses compagnons de la Libération après-guerre, Vladimir Troplin?
Oui, c'est une excellente question. D'abord, malheureusement pour eux, ils ne sont pas 1000, ils sont 700, moins de 700 à survivre à la guerre parmi ses compagnons. Beaucoup d'entre eux ont été décorés à titre posthume. Pour ceux qui restent, c'est difficile de parler au nom de chacun d'eux, bien entendu, mais on a un sentiment particulier, en particulier les Français libres, ceux qui ont été en exil forcé et qui ont combattu pendant 4 années en dehors de la France. Je pense qu'ils sont souvent très déçus de ce qu'ils voient.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que je pense que pour différentes raisons, ils n'ont pas vécu la même guerre que les Français restés en métropole. Ils n'ont pas vu l'évolution non plus des mentalités en métropole. Je pense qu'ils ont aussi idéalisé la France d'une certaine façon, dont ils n'avaient aucune nouvelle, sauf de temps en temps par le courrier de la Croix-Rouge, mais qui était forcément extrêmement lapidaire et qui ne rentrait pas dans les détails.
Là, ils étaient à bonne école, puisque c'est justement la façon dont De Gaulle lui-même voit la France. La France est presque son être aimé, le plus cher. Il dépeint la France comme une incarnation presque humaine. Hein. Et lui-même s'incarne comme le défenseur absolu, le sauveur de cette princesse qui serait la France.
Comme dit le général de Gaulle à René Cassin, qui l'aide à rédiger les statuts de la France libre en juillet 40, Cassin, nous sommes la France.
Et voilà, tout est dit.
Mais cela dit, le dépit, c'est la découverte d'une France un peu mesquine, voilà, à laquelle il ne s'attendait pas. C'est-à-dire que business as usual, ça reprend. Eux qui combattent voient parfois des civils les applaudir, mais qui ne sont pas du tout prêts, eux, à s'engager pour continuer à libérer le territoire. Donc, il y a une grande déception, mais cette déception, elle est arbitraire. Je pense qu'elle est liée aussi à ce fantasme d'une France nouvelle, régénérée, en marche, etc., qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Donc, il y a de l'incompréhension. Pour les résistants, ceux qui ont été en France clandestinement, je pense que c'est différent, parce qu'ils ont vécu en France et l'évolution de la France. En revanche, on ne leur demande pas tellement de s'épancher sur leur parcours, on ne leur donne pas spécialement la parole. Il y a une tentative globale, là, pour le coup, de la résistance de devenir une force politique. Et cette force politique de la résistance, elle va se dissoudre dans, j'allais dire, le parlementarisme de la Troisième République, revenant un peu en force avec des atours un peu changés. Et ce sera une grande désillusion.
Alors néanmoins, on l'a bien entendu tout au long de cette émission, certains d'entre eux font des parcours politiques remarquables, puisqu'ils ont été quand même aux côtés du général de Gaulle. Certains d'entre eux ont vécu le débarquement. Daniel Cordier, on l'a entendu, a été le secrétaire de Jean Moulin. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'entre eux, on les retrouve après, hein.
Oui, alors Daniel Cordier, lui, on ne le retrouve pas vraiment parce qu'en fait, il quitte tout pour devenir galeriste.
Grand l'art.
Il choisit l'art. Et d'ailleurs, il choisit l'art grâce à Jean Moulin.
C'est Jean Moulin qui
ouvre les yeux sur l'art contemporain, chose à laquelle Daniel Cordier, le jeune Daniel Cordier, était totalement étranger. Mais il y a des carrières. Il y a des carrières aussi. On a entendu François Jacob. François Jacob, médecin, prix Nobel de physiologie en 1965. Donc, il y a des carrières civiles, des carrières militaires, des carrières politiques qui s'ouvrent à ces gens-là. Mais ce n'est pas la majorité des compagnons de la Libération qui vont faire forcément une carrière éclatante ensuite. Certains reviendront tout simplement à leurs activités d'avant-guerre, qui enseignant, qui médecin, qui ouvrier.
Diane de Vignemont, ce sont des destins exceptionnels. Eux-mêmes ne se vivent pas du tout comme des héros. Ils expliquent très, très naturellement et avec beaucoup d'intensité leurs décisions, leurs choix et leur trajectoire. Mais ils ne revendiquent pas d'être remerciés d'une façon ou d'une autre, en quelque sorte.
Du tout. Je connais beaucoup moins de compagnons que Vladimir, mais la quelques cinquantaine avec qui j'ai pu passer des centaines d'heures à les écouter, à les regarder parler, effectivement, parlent de ces années-là comme quelque chose de tout à fait logique, qui était certes une rupture et certes à contre-courant, mais qui, pour eux, coulait sous le sang. C'était une nécessité de l'être, une nécessité de l'âme, et ils ne tiennent pas particulièrement à être remerciés. De par leur jeunesse, la plupart d'entre eux, et de par l'aventure qu'ils ont vécue pendant la guerre, la plupart d'entre eux, de retour en France, ne rêvent que d'une chose, c'est de repartir. Donc ils sont nombreux à tenter l'Empire ou l'étranger, ou à tenter d'avoir des carrières un peu internationales. On dirait pas forcément comme ça en les écoutant à la radio, mais c'est vraiment des personnes âgées qui nous parlent, qui nous livrent ces témoignages dans cette exposition, qui se souviennent pas forcément de tout, dont parfois on doit leur rappeler certains éléments de leur parcours. C'est là que souvent interviennent leurs femmes dans le cadre de la porte, justement, pour leur dire « Ah mais oui, mon chéri, à cette date-là, en fait, tu étais à tel endroit et pas à tel endroit. » Mais ils revivent véritablement leur engagement face caméra et ils en parlent avec des étoiles dans les yeux.
Vous aussi, vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. Et dans votre exposition, tout comme le fait le lieutenant Joséphine Becker, on réfléchit sur ce qui s'est passé, on en tire les leçons et on réfléchit au pouvoir de la jeunesse. Charles Rudroff.
J'ai toujours été obnubilé par la différence qui existait entre l'homme mouton et l'homme libre. L'homme mouton, c'est celui qui est dans un système et qui suit son système. Un régiment, c'est un système. Alors le régiment sera lié à De Gaulle, bon, on sera lié à De Gaulle, vous voyez. Il n'y a pas de système personnel. L'homme libre, lui, il pense tout seul, il réfléchit tout seul, il supporte tout seul, il a peur tout seul, il cherche ses moyens tout seul, il se crée sa mission, et il trouve des moyens pour la réaliser.
Jean-Pierre Vernon.
C'est le fait que dans des situations qui sont totalement exceptionnelles, où tout le monde est dérouté, où entre le passé et ce qui est en train de se faire au présent, il y a un monde. Dans ces cas-là, il y a des gens, pas nombreux, qui n'ont rien de particulier, ni sur le plan de leur métier, ni sur le plan de leur personne. Monsieur tout le monde, un petit artisan, un commerçant, un intellectuel, pas de premier plan, et qui tout d'un coup vont se révéler des êtres absolument exceptionnels. Que s'il n'y avait pas eu ça, Ils n'auraient rien fait de particulier. L'artisan aurait fait ses chaises, le prof aurait fait ses cours. Rien. Rien ne les distingue du commun. Mais tout d'un coup, ces êtres du commun, on s'aperçoit, à cause de ces événements et de la façon dont ils réagissent, dont ils prennent en main les choses, qu'ils sont bâtis d'une façon absolument extraordinaire. Qu'ils sont des chefs, qu'ils sont des types qui peuvent prendre des décisions, qui n'hésitent pas une seconde à mettre tout en jeu, leur fric, leur famille, tout, pour ça. La résistance était faite de ces types-là.
Fred Moore.
J'ai dit, s'il y avait encore, qu'à Dieu ne plaise, une situation identique ou comparable à celle de 40, je suis certain qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes à faire ce que nous avons fait, à une condition importante et différente. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent savoir le pourquoi de la chose. Vous devez d'abord leur expliquer, vendre votre marchandise, si j'ose m'exprimer ainsi. Et alors là, s'ils sont d'accord, je vous dis, il y en aurait beaucoup plus.
Vous êtes d'accord, Diane de Vignemont, avec Fred Moore, sa vision de la jeunesse d'aujourd'hui?
C'est très compliqué à dire ces interprétations a posteriori de qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui s'il venait à se produire une situation similaire. Je ne sais pas, je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, que ce soit les gens de mon âge ou plus jeunes, est particulièrement engagée. En tout cas, j'en ai l'impression.
Mais on pense aussi à la jeunesse égyptienne, on pense à la jeunesse tunisienne, on pense à la jeunesse algérienne qui a déployé énormément d'énergie. On pense à la jeunesse en Biélorussie. On a vu quand même ces dernières années énormément de jeunes se fédérer et descendre dans la rue, justement, et ne pas avoir peur d'affronter l'injustice, d'affronter la violence d'un État.
Oui, tout à fait. Dans notre exposition, on a essayé d'isoler les différents sentiments qui ont pu pousser nos compagnons à résister. On en a fait un nuage de mots qui sont pondérés en fonction de la quantité de compagnons qui témoignent s'être engagés à cause de cette raison-là. Et la jeunesse est vraiment une raison prépondérante de l'engagement. Ça, c'est ce qui a permis, entre autres, à ces gens de s'engager parce qu'ils n'étaient pas sous les drapeaux, ils n'avaient pas une femme, des enfants, des parents à charge. Ils pouvaient se permettre de s'engager, mais c'est aussi une certaine fougue, une certaine
insouciance.
Il faut être un peu dingue pour sauter sur un bateau pour Londres, suivre un général inconnu alors que la France est occupée, que vos parents risquent d'être en danger.
Vladimir Trouplin, en tant que justement conservateur du musée de l'ordre de la Libération, vous connaissez bien ces sujets. C'est très intéressant de travailler avec une jeune étudiante en histoire contemporaine comme Diane de Vignemont et de partager ses réactions. Mais c'est intéressant aussi pour vous de redécouvrir cette histoire à travers ces voix.
Oui, dans les deux cas, c'est intéressant. D'abord parce que, effectivement, vous l'avez dit, Diane est à peu près l'âge qu'avait la majorité de ses compagnons qui témoignent. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi le regard d'une jeune chercheuse sur ces vieux messieurs, parce que c'est surtout des messieurs, faut bien le dire, qui témoignent. Et elle pourrait en parler mieux que moi sur le ressenti personnel.
Mais vous avez ressenti quoi, justement? Vous connaissez très bien le sujet. Est-ce que vous avez revisité ce sujet?
Ah, mais complètement, parce que il me semble, si vous voulez, que cette question de l'engagement dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui doit rester du parcours de ces hommes et de ces femmes. Leur combat héroïque, dans les sables de Bir Hakeim, dans la Russie soviétique avec le Normandie-Niemen, dans les maquis, c'est très important, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est la capacité de l'homme à s'indigner suffisamment fort pour franchir, de l'homme et de la femme, bien sûr, pour être capable de franchir un pas qui place au-dessus de leur propre destin un destin commun. Il me semble que c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, ce n'est pas reproductible. On ne demande pas aux gens de faire comme ces gens-là. Mais ça permet d'y réfléchir en se disant, est-ce que parfois, il n'y a pas des choses qui surpassent un peu notre petite personne?
Merci à tous les deux et merci au Musée de l'Ordre de la Libération d'avoir choisi RFI et la Marche du Monde pour partager en avant-première ces paroles de Rebelle de 1940. Ainsi s'achève cet épisode de la Marche du Monde réalisé par Sophie Janin avec les archives du Musée de l'Ordre de la Libération, mais aussi de RFI et de l'INA. Il me reste à vous inviter, chers auditeurs, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et à vous abonner à notre podcast via votre téléphone. Exprimez-vous, écrivez-nous, cette émission, c'est la vôtre.